Et c'est parti pour Big Bang. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons partir vers les origines de la vie. Lorsque j'étais adolescent, quelque chose m'a bouleversé. Ça m'est tombé dessus d'un coup en lisant des livres comme Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Grâce à eux, grâce à mes professeurs, j'ai réalisé qu'il existait une discipline incroyable. Une discipline qui permettait, sans bouger de chez soi, de comprendre l'univers tout entier. Vous imaginez bien le sentiment de puissance qu'une pareille idée peut donner à un ado. Tout comprendre, tout voir, comme ça, dans sa tête, ce serait fou. La discipline qui semblait permettre ça, c'est celle dont le but est de découvrir les lois cachées de la nature, les lois qui règlent l'agencement des choses, les lois qui nous permettent de remonter l'histoire du cosmos, de comprendre l'espace et le temps, les étoiles, les galaxies. On l'appelle la physique théorique. Je ne m'en suis jamais remis, à tel point que je me suis dédié corps et âme à la recherche de ces lois, pour essayer de comprendre l'infiniment grand et l'infiniment petit. J'ai même écrit un livre qui raconte tout ça. Mais voilà, il y a quelques années, une autre interrogation est née de cette découverte. Une interrogation étrange qui disait un peu ceci. Si nous sommes capables de comprendre l'univers, serait-il possible de comprendre notre existence? Se pourrait-il qu'il existe des lois qui s'appliquent non pas juste à l'inanimé, aux planètes et aux étoiles, mais à la vie? Se pourrait-il que nous soyons le fruit de quelque chose d'incroyable qui aurait lieu quelque part dans cette partie de la réalité que nous habitons? J'ai passé les 10 années qui viennent de s'écouler à chercher ces lois, à tenter de voir s'il en existe, et c'est devenu un livre, La vie à portée de main, que je viens de publier. Alors vous imaginez certainement ma joie lorsqu'en demandant à mon invité mystère d'aujourd'hui ce qui la passionne en science, et qu'elle m'a répondu « l'origine de la vie ». Car c'est de ça que mon livre parle, au fond. C'est de cette histoire que nous voudrions peut-être toutes et tous connaître. Cette histoire qui est la nôtre et qui nous rassemble. Et c'est donc pour parler de la recherche de nos origines, de l'apparition de la vie, que j'ai l'honneur d'avoir avec moi 3 invités exceptionnels que voici.
Bonjour, donc, je m'appelle Puri López García, je suis directrice de recherche au CNRS, à l'unité Société Écologie, Société Évolution, sur le campus de l'Université Paris-Saclay. Je m'intéresse à la diversité et à l'évolution du vivant, depuis l'origine de la vie, aux grandes diversifications. Et pour ça, on étudie surtout le monde microbien, puisque la plus grande partie de la biodiversité se cache dans ce monde microbien. En utilisant des techniques très variées, moléculaires, et en étudiant des écosystèmes très divers, y compris des écosystèmes extrêmes, à la recherche de nouvelles lignées qui nous permettent de mieux comprendre l'arbre du vivant et son origine.
Bonjour, donc je suis Grégoire Danger, donc je suis professeur à l'Université d'Aix-Marseille. Je suis chimiste et donc je fais mes recherches au sein du laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires et au sein duquel j'anime une équipe qui s'appelle l'équipe Astro. Et au sein de cette équipe, on va s'intéresser en fait à l'origine de la matière organique. Donc la matière organique, c'est ce qui va constituer en fait les êtres vivants. Et on va remonter à la naissance du système solaire. On va essayer de comprendre en laboratoire, en faisant des expériences, eh bien l'origine de cette matière organique qu'on va retrouver dans les astéroïdes, les météorites. Et in fine, on va essayer de comprendre eh bien, comment cette matière organique a pu jouer un rôle dans la transition de ce qu'on va appeler l'abiotique, le non-vivant, vers le vivant, le biotique.
Bonjour, je m'appelle Marie Dariussec, je suis écrivaine. Je m'intéresse effectivement à l'origine de la vie, peut-être parce que comme je passe mes journées, parfois mes nuits, à bâtir des histoires, à écrire des romans, il y a toujours un moment où le début du début du début du début, ça m'obsède et je me demande comment ça a commencé tout ça. Et je m'y perds un peu.
Eh bien, on va essayer de d'éclairer un petit peu cette question-là. Marie Dariussec, Grégoire Danger et Puri Garcia López, merci d'être avec nous. Nous sommes avec le public du studio 181 de la Maison de la Radio. Vous écoutez Big Bang et nous allons chercher les origines de la vie.
Big Bang. Christophe Galfin.
Marie Dariussec, c'était vous l'invité mystère dont je parlais dans l'introduction de cette émission. Et oui, vous dites que l'origine de la vie, telle l'origine d'un roman ou d'une histoire, vous fascine tout particulièrement. Je pense que vous n'êtes pas la seule. Mais qu'est-ce que vous projetez par-dessus, sur cette interrogation-là? Vous y voyez quelque chose de particulier?
À la recherche de l'origine perdue. Hein. Je crois que tous les écrivains et écrivaines arrive vite à toucher aux limites de notre petite société, de notre petite planète, et on finit par se poser des... Moi, j'ai beaucoup lu de science-fiction, tout simplement, quand j'étais plus jeune, et même encore aujourd'hui. Et la grande narration, la narration qui arriverait à englober tout depuis le début, ce à quoi vous vous essayez, d'ailleurs, Christophe, c'est quelque chose qui... Ce grand récit-là, je crois que toutes les civilisations ont essayé de le produire, que ce soit en religion, en science, et puis aussi en poésie. Et le roman, c'est une toute petite partie de ça. Mais j'ai toujours conscience, quand j'écris, qu'effectivement, je suis un être multicellulaire, qui tient debout comme elle peut, bipède, mais ça aurait pu être autrement, voilà. Donc je sens que je viens des animaux, que je viens d'autres choses. Et ça m'intéresse beaucoup.
C'est marrant que vous ayez inclus la science dans cette tentative de trouver une narration sur les origines de la vie, parce que ça, c'est quelque chose que nos générations d'humains peuvent dire, mais ça fait pas si longtemps que ça que la recherche de l'origine de la vie fait partie du domaine scientifique. Avant, il suffisait d'une narration bien construite et d'essayer de convaincre tout le monde qu'elle ait ou non un rapport avec la réalité changeait pas grand-chose, mais maintenant, oui. Du coup, j'ai eu envie de vous demander, Puri Lopez-Garcia, lorsque on regarde un organisme vivant aujourd'hui, que ce soit un humain ou autre par exemple, est-ce qu'on arrive à déterminer quelles en sont les briques de base ? Est-ce qu'il existe par exemple dans un organisme vivant des choses qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler de la magie ou des formes autres que celles que nous connaissons ?
On appelle ça pas vraiment la magie en science, mais effectivement, on a des briques communes. L'ensemble du vivant partage des caractéristiques qui sont communes. Et en particulier une chimie qui est basée sur la chimie organique. On a toutes nos cellules ont un génome qui est basé sur l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, un acide nucléique, et qui porte l'information pour coder notre propre système. On a des protéines qui sont des chaînes d'acides aminés qui vont, elles, faire des fonctions au sein des cellules, transformer la matière et l'énergie pour faire plus de nous-mêmes, par exemple, et aussi vont former partie de la structure cellulaire constitue la cellule, l'unité fondamentale du vivant. Et donc, on a des organismes unicellulaires, tout petits, des organismes multicellulaires, comme nous, les humains, les animaux, les plantes. Mais on est tous basés sur la même chimie organique, une chimie à base de carbone, dans un solvant qui est l'eau liquide. Et donc, on a ce type de chimie organique dans de l'eau liquide, hein, de manière abiotique, précédant la vie. Mais une sous-partie de cette chimie a constitué les organismes qu'on appelle vivants.
Vous voulez dire qu'il y a eu de la chimie, c'est-à-dire de l'interaction entre des molécules, c'est-à-dire des groupes d'atomes, cette chimie tout court, elle existe depuis extrêmement longtemps, mais certaines pièces particulières, certaines pièces qui sont en nous aujourd'hui, ont interagi un petit peu différemment. Grégoire d'Angers, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ces briques qui forment le vivant d'aujourd'hui, elles n'existent que sur Terre ?
Mais en fait, non, c'est ça qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on dissèque un petit peu les biomolécules, ce que disait Puri, les protéines ou les ARN, ADN, et en fait, on va voir que c'est formé, par exemple, les protéines de petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Et lorsque vous avez vu les retours d'échantillons d'astéroïdes comme Ruigu ou Bennu, eh bien, on se rend compte qu'à la surface de ces objets qui sont dans le ciel, hein, interplanétaires, entre les planètes, eh bien, on a ces acides aminés-là. Donc, à la différence des systèmes vivants, où je crois que c'est une vingtaine d'acides aminés à peu près qui vont constituer les protéines, eh bien vous avez jusqu'à 70-80 acides aminés différents qu'on peut retrouver dans ces environnements-là. Donc toute la question, comme disait Puri, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on avait cette matière organique qui était disponible. Donc on a ces molécules du vivant qui sont disponibles mais qui ne sont pas vivantes. Comment est-ce qu'elles ont pu s'assembler dans l'environnement de la Terre primitive pour aller vers des systèmes vivants ? Et c'est toute la question de cette transition du non-vivant vers le vivant, car le non-vivant est capable de générer de la matière organique, donc c'est la matière qui nous constitue, et on en voit dans les astéroïdes, on en voit sur Titan, on en voit sur Europe, on en voit sur Mars.
Ça, ce sont des lunes de Jupiter et de Saturne qui sont dans l'espace. Alors, il y a ce côté amusant, parce que lorsqu'on essaie de comprendre le vivant qui est autour de nous, il y a donc ces briques de base dont on parle, qui forment soit les parois des cellules, soit les protéines, soit le code dont nous parlons, qu'il y a, si je me souviens souviens bien, des sucres, des phosphates, ce genre de choses à l'intérieur. Toutes ces molécules-là, on les a retrouvées indépendamment du vivant dans l'espace, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, on les a pas retrouvées assemblées, mais on les a retrouvées séparées. C'est-à-dire qu'on a toutes les petites building blocks, qu'on appelle, les briques élémentaires. Donc, on a du phosphate, on a des sucres, on a des bases nucléiques. Ça fait l'ARN ou l'ADN. Et puis, on a les acides aminés, comme on en discutait avec les protéines.
Mais je crois avoir lu un article dans Nature Geoscience du début du mois de décembre qu'on vient de trouver du glucose sur Bénu, notamment une molécule qui n'avait jamais été découverte ailleurs dans l'espace. Est-ce qu'on a une idée de comment peut-être un moyen de réfléchir à comment ces molécules ont pu éventuellement s'assembler d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'il y avait quelque chose encore avant qui s'est assemblé pour donner du vivant? Ça fait partie des choses que vous essayez de comprendre?
Oui, alors, on essaye justement de comprendre, donc comme on le disait, faire la matière avec du carbone et de l'hydrogène, c'est pas compliqué. D'accord, ça maintenant on sait le faire. Ça se faisait sur Terre, il y avait la fameuse expérience de Miller, la phase gazeuse au niveau des volcans, on fait aussi la matière organique, on en a lors de la formation du système solaire, on en a dans différents objets.
Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est l'expérience de Miller,
L'expérience de Miller, c'est qu'en fait, il a simulé une atmosphère sur la Terre primitive, où il a mis en fait de l'eau, de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniac, enfin de l'azote pardon, et il a soumis ça à des décharges électriques pour reproduire en fait les environnements autour des volcans dans lesquels vous pouvez en fait avoir des décharges de haute énergie. Donc on donne de l'énergie à ce gaz, on va casser les molécules, ça va se recondenser dans l'eau liquide et puis ça va faire de la chimie. Et lorsqu'il a analysé ces échantillons, il s'est rendu compte qu'il avait des acides aminés. Et c'est une des premières expériences en chimie qui ont montré la possibilité, à partir de matériaux qui n'ont rien à voir avec les systèmes vivants, de former des molécules qui sont à la base du vivant. Donc c'est ça qui était intéressant.
Il n'a pas eu de bol parce qu'il a publié ses résultats la même année que la découverte de l'ADN.
Exactement.
Par l'équipe de Cambridge, donc il n'a pas eu de bol. Est-ce que déjà, jusqu'ici, Marie Dariussec, on a le début d'une histoire qui se raconte?
Oula.
Ou pas du tout? Est-ce que ça vous semble être une histoire?
Oui. Oui, ça fait plus recette de cuisine pour l'instant. Il y a des ingrédients, on touille un peu, on chauffe.
Mais ne dit-on pas qu'un bon roman, c'est une bonne recette aussi?
Oui, il y a des très bonnes recettes de cuisine aussi dans des pièces de théâtre. Ça peut occuper tout un pan de la pièce de théâtre. C'est un peu pièce de théâtre aussi. Alors on attend effectivement de voir arriver les premières créatures auxquelles on pourrait s'identifier un peu. Parce que ce qui manque pour l'instant cruellement, c'est des personnages dans votre histoire. Pour l'instant, c'est assez gazeux, abstrait, voilà. Il se passe beaucoup de temps, c'est ça, avant que ça apparaisse.
Cela dit, il faut se souvenir que toutes ces molécules dont Grégoire Danger est en train de parler ne sont pas arrivées là comme ça par hasard. Elles ont été fabriquées à partir d'atomes nés dans le cœur d'étoiles il y a extrêmement longtemps, d'étoiles qui ont explosé et qui se sont retrouvées à l'intérieur de nuages gigantesques, à l'intérieur duquel notamment le Soleil est apparu.
Qui peut être un bon personnage.
Donc ça peut être un bon personnage. Et on a un début de molécules qui tournent un petit peu partout. Est-ce que c'est facile de fabriquer des acides aminés, des protéines, peut-être des acides nucléiques qui sont à l'intérieur de l'ADN ou de l'ARN dans l'espace, Grégoire Danger?
Oui, en fait, c'est assez facile. Paradoxalement, c'est lorsqu'on parle de l'espace, c'est très froid. Il y a ce qu'on appelle, c'est dans le vide à peu près, 10-13 millibars. Et on se dit, dans ces environnements-là, moi, quand je suis arrivé au laboratoire, j'étais chimiste organicien, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ces environnements-là? Et en fait, on part d'une observable, c'est-à-dire qu'on regarde les zones de formation du système solaire, c'est des petits grains glacés à 10 Kelvin, 50 Kelvin à peu près, très très froid.
Ça veut dire qu'on est entre moins 260 et moins 210 degrés Celsius.
Ouais, c'est ça, à peu près. Et en fait, si on soumet de l'énergie, donc en fait, on se rend compte que ces petites glaces sont formées d'eau, de méthanol, d'ammoniac, de dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. Donc c'est des molécules qui nous parlent, qu'on retrouve sur Terre aussi. Et en fait, dans ces environnements-là, vous avez des processus énergétiques qui vont venir impacter ces glaces-là. Donc ça va être de la lumière dans l'ultraviolet, ce qu'on appelle, ça peut être des ions de haute énergie, par exemple. Et tout ça, ça va casser nos molécules lors de la formation du système solaire, et les molécules vont se réarranger. Et lorsqu'on, en laboratoire, on simule cette évolution-là et on récupère le matériau organique qui s'est formé lors de cette expérience-là, eh bien on se rend compte qu'il y a des sucres, il y a des acides aminés, il y a des bases nucléiques, et ainsi de suite. Donc en fait, l'origine même du système solaire, de par son évolution, va vous permettre de générer ces molécules qu'on retrouve ensuite potentiellement sur Terre.
Ce sont ces molécules-là qui se retrouvent aujourd'hui dans le vivant et que vous analysez, Puri. Alors vous avez une approche un petit peu différente, certes, mais c'est de ça dont on parle.
Oui, effectivement. Donc, toutes ces molécules se retrouvent dans le vivant, mais formant des molécules très complexes, qu'on appelle souvent des macromolécules. Donc, il y a des milliers de bases qui s'assemblent pour faire des séquences d'ADN qui codent pour des chaînes d'acides aminés qui forment partie des protéines qui, elles, vont faire des fonctions dans nos cellules. Et donc, bon, ça on le sait, et cette information qui est portée par la séquence soit des bases nucléiques dans les acides nucléiques, soit d'acides aminés dans les protéines, nous renseigne sur l'évolution de la vie sur Terre. Donc, une des choses qu'on peut faire pour retrouver des protagonistes, c'est de comparer l'ensemble du vivant sur Terre. Et en analysant les séquences des organismes multicellulaires et des organismes unicellulaires, des bactéries, des archées, des protistes, on peut arriver à comparer tous ces organismes-là, des séquences génomiques, et à inférer les états ancestraux, donc des ancêtres intermédiaires, le dernier ancêtre commun des animaux, le dernier ancêtre commun des plantes, le dernier ancêtre commun des eucaryotes, donc des animaux, des plantes, des champignons et de beaucoup d'organismes comme des microalgues ou des protozoaires, et le dernier ancêtre commun à nous tous avec les bactéries et avec les archées qu'on appelle LUCA, Last Universal Common Ancestor, un personnage qui est inféré, qui est notre dernière ancêtre commun auquel on peut arriver par la comparaison des séquences de l'ensemble des organismes présents sur Terre.
C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, si vous me prenez un morceau de ma peau à moi, et que vous allez chercher une cellule de ma peau et l'ADN qui est à l'intérieur, vous allez pouvoir regarder la recette qui est à l'intérieur de mon corps et la comparer à celle d'un oursin ou d'un ours et ce genre de choses.
Oui, et en particulier, on utilise des gènes qui sont très conservés, qui sont universels dans l'ensemble du vivant et qu'on partage avec des bactéries, avec des archées. C'est en particulier les gènes et les protéines qui constituent les ribosomes, qui est la machine qui sert à synthétiser les protéines dans notre cellule et qui, en quelque sorte, est l'outil qui nous permet de transformer les gènes en protéines, de lire l'information portée par les gènes pour fabriquer des protéines. Et donc ça, c'est une machinerie essentielle, universelle dans le vivant. Et ces composantes nous permettent effectivement de comparer et les bactéries et vous et moi.
Du coup, vous pouvez nous définir ce qu'est un gène ?
Ah, c'est difficile, mais on va dire que c'est l'unité d'information biologique. Et donc, en pratique, ça s'est traduit par une séquence des nucléotides, soit dans l'ADN, soit dans l'ARN, qui est l'intermédiaire vers les protéines, qui code pour une protéine. Donc, un gène code pour une protéine, on peut dire, de manière très simple.
C'est la recette
c'est la
de
recette
Marie Dariussec
pour une protéine ou pour une sous-unité des protéines qui va faire une fonction.
Je fais une très bonne tarte aux pommes. Mais alors, si on revient à LUCA, moi, ce que je comprends de LUCA, déjà, le fait qu'il ait un nom, même un prénom, ça me fascine. Peut-être qu'il faudra dire ce que ça veut dire. Et aussi, si je comprends bien qui est LUCA, c'est notre ancêtre à tout ce qui est vivant sur la Terre, c'est ça?
Oui.
Mais en quelque sorte, c'est celui qui a réussi, c'est-à-dire c'est celui qui a eu des descendants, parce qu'il y a eu des formes qui ont raté, c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'on peut dire à la même époque ou... Parce que moi, effectivement, je vois un petit bonhomme, hein, donc je sais que c'est pas un petit bonhomme, mais...
Non, en réalité, c'est un portrait robot d'un organisme qui possédait les communs dénominateurs à l'ensemble d'organismes cellulaires aujourd'hui, c'est-à-dire aux grands trois domaines du vivant qui sont les archées, les bactéries et les eucaryotes. Et donc, c'est un organisme un peu modèle. C'est la représentation d'un ancêtre qu'on arrive à inférer. Mais c'était pas une seule cellule. Il y avait une cellule dans une population, dans une communauté. Donc, il y avait d'autres choses autour. Aussi, il faut dire que ces derniers ancêtres qu'on arrive à inférer étaient déjà une cellule faisant partie d'une population, d'une communauté, qui était déjà assez complexe, qui était pratiquement comparable à une bactérie ou à un archée moderne, à des organismes relativement simples, unicellulaires. Mais il y a une grande distance entre cet organisme très complexe et l'origine véritable de la vie, où on pense à des organismes beaucoup plus simples, des protocellules, même des complexes moléculaires, déjà complexes, mais pas encore biotiques. Donc, LUCA, c'est déjà quelqu'un de très complexe.
Et il a quel âge?
Alors, c'est difficile à estimer.
On va dire
aux alentours de 4 milliards d'années. La Terre est vieille de environ 4,6 milliards d'années, donc vers 4,2 milliards d'années. en enfer. C'est-à-dire que ces datations moléculaires ont des, enfin, sont un peu floues, hein, parce que on utilise des points de calibration qui sont pas très certains ou pas très fixes, mais on sait que à 3,45 milliards d'années, il y a cette période, on a déjà des stromatolithes fossiles généralement acceptés par l'ensemble de la communauté qui sont non ambigus, et ces stromatolithes fossiles sont des témoins des communautés déjà complexes où il y avait de la photosynthèse. Or, la photosynthèse, c'est une caractéristique qui a évolué chez les bactéries. Ça veut dire que les bactéries et les archées avaient déjà divergé, donc que Lucas précédait cette époque-là. Donc 4,2 milliards d'années semble une bonne époque.
Eh bien, pour l'instant, ce n'est que sur Terre que nous avons trouvé de la vie autour de nous un petit peu partout. Mais comme il y en a peut-être ailleurs, je vous propose d'écouter Across the Universe des Beatles.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their
Nous sommes toujours avec mes trois invités, l'écrivaine Marie Dariussec, la biologiste Puril Lopez Garcia, pardon, et le chimiste Grégoire Danger, et bien entendu le public du studio 181 de la Maison de la Radio.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors, dans la première partie de cette émission, nous avons, qui est consacrée à la recherche de l'origine de la vie, nous avons parlé d'archées, de caryotes et tout ça en parlant de cellules qui étaient autour de nous. Il se trouve que depuis une vingt-trentaine d'années à peu près, même peut-être plus maintenant, 50 ans, nous savons qu'il existe trois types de cellules pour le vivant qui est sur Terre autour de nous. Que nous ne sommes, nous les humains, les plantes, etc., ce n'est qu'une seule catégorie qu'on appelle les eucaryotes. Ce sont des cellules avec un noyau dans lequel se trouve l'ADN à l'intérieur. Et il y en a deux autres. Il y a les bactéries qui n'ont pas de noyau à l'intérieur de leurs cellules et les archées qui n'ont pas de noyau du tout et qui ont des propriétés un petit peu différentes des bactéries. Et on sait que voilà, il y a eu des mélanges entre bactéries et archées, parfois pour créer le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui avec l'ensemble des cellules qui sont là. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Pourri, c'est qu'en comparant les ADN de ces trois types de cellules-là, on a réussi à remonter dans le temps, à voir qu'on avait des ancêtres communs avec tout le reste du vivant sur Terre, dont un qui est l'ancêtre vivant de tout le vivant qu'on a appelé Luca, le dernier ancêtre universel commun, Luca en anglais, Last Universal Common Ancestor. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que Luca était la première existence vivante sur Terre? Non, vous disiez, il y en avait peut-être plein d'autres. Mais comment on fait pour aller plus loin?
C'est difficile à partir de la bio, c'est-à-dire qu'on reconstruit en comparant justement les différents organismes vivants, les archées et les bactéries en particulier. On les compare et on arrive à inférer cet ancêtre qui était un peu le commun dénominateur aux deux. On peut essayer d'aller plus loin dans la simplification. Et par exemple, il y a des gens qui ont travaillé sur un mini-ribosome, donc des parties essentielles du ribosome qui seraient peut-être les initiateurs de la vie, la partie qui correspond à l'origine du code génétique. Et donc, on pourrait inférer en éliminant des molécules qui se placent autour et qui sont en quelque sorte une décoration.
Le ribosome, vous disiez tout à l'heure, c'est l'endroit où les protéines sont fabriquées dans les cellules.
Voilà, donc comme c'est une machinerie très importante, centrale à toute cellule, hein, c'est vraiment là où on fait la traduction du code du gène vers la protéine. Eh bien, c'est là qu'on peut essayer de voir s'il y aurait des versions plus simples de ce ribosome qui soient centrales à l'ensemble et imaginer des versions pré-Luca, qui prédateraient Luca, encore plus simples. Mais malheureusement, il est difficile d'aller plus loin dans cette approche pour joindre la chimie la plus complexe qu'on peut imaginer, des systèmes autocatalytiques et des réseaux catalytiques qui sont dans la nature, dans le monde abiotique. Donc c'est ça la question de l'origine de la vie. Comment faire la transition? Il y a des progrès, bien sûr, mais on est encore un peu loin.
Alors autocatalytique, ça veut dire qu'en gros, ça facilite une réaction sans être utilisée. C'est ça que ça peut se refabriquer soi-même?
Oui, c'est une des propriétés du vivant.
Avant que vous répondiez, j'allais vous poser cette question à tous les trois d'ailleurs. Je vais commencer par vous, Marie Dariussec. Est-ce que si vous deviez définir le vivant, vous y arriveriez? Comment est-ce que vous définiriez? Par exemple, qu'est-ce qui serait la différence entre un morceau de rocaille et quelque chose de vivant d'après vous?
Bon, moi j'ai appris à l'école, j'ai fait des études de lettres, mais quand même j'ai un peu écouté en bio ou en physique au lycée, quoi. Et je crois me rappeler que le vivant est capable de se reproduire et que les cristaux se reproduisent, mais qu'ils font pas d'erreurs, c'est ça? Et donc, qu'il y a une histoire de reproduction avec des erreurs chez le vivant qui me plaît bien, moi. Parce qu'on sait ça. On
c'est
sait
un peu
faire.
Flou, Marie Dariussec, ce que vous me dites
je
pour l'instant.
Je trouve que les humains se reproduisent avec beaucoup d'erreurs. Ça fait le charme de nos enfants, d'ailleurs.
Et vous pensez notre...
Bon, alors, dites-moi, vous, les scientifiques, c'est quoi le vivant? La reproduction et les erreurs, c'est pas ça? Ça n'a rien à voir?
Ah, si. C'est une des parties. Hein. Donc, disons que le vivant est la qualité des systèmes chimiques qui ont deux propriétés fondamentales. Une des propriétés, c'est de faire plus de soi-même. C'est ce qu'on appelle le métabolisme ou des cycles autocatalytiques. On est capable de transformer de la matière, de l'énergie pour faire plus de nous-mêmes et nous maintenir dans le temps. Et la deuxième grande propriété, c'est l'évolution. Et avec la capacité de s'adapter à un environnement changeant. Et donc ça, l'évolution, c'est ce qu'on appelle l'évolution darwinienne, par référence à Charles Darwin, implique justement la reproduction avec des variations qui sont héritées et sur lesquelles, avec la génération d'individus différents, sur lesquelles peut agir la sélection naturelle pour laisser les variants qui sont les plus adaptés à un environnement local. Donc oui, bien sûr, c'est
si
la propriété d'évolution.
La première partie de votre réponse très précise et très claire, la capacité à s'augmenter et se maintenir soi-même, ça veut dire que si je mange un éclair au chocolat et que je grossis, c'est parce que je suis vivante, c'est ça?
Oui, en quelque sorte. Oui.
ou autre chose qu'un éclat au chocolat. En tout cas, votre définition, Marie Dariussec, elle était franchement
c'est le lycée,
pas mal du tout.
C'est l'éducation nationale.
Grégoire Danger, j'ai envie de vous poser en fait la même question, malgré les réponses que vous venez d'entendre. Qu'est-ce qui définit pour vous le vivant ?
Alors, vous êtes prêts ?
Oui.
Alors, pour le chimiste, en fait, ça revient exactement hein, à ce que pourrait dire la biologiste à côté de moi. L'idée, c'est que ça va être un système qui va être capable de se reproduire, donc l'autocatalyse, ce qu'on appelle, et surtout qui est loin de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne va jamais revenir en arrière. Il est capable de se reproduire, donc ça veut dire que vous allez avoir différentes générations, et donc, de par ces générations-là, vous pouvez avoir des erreurs qui font que vous allez avoir des systèmes qui vont être plus adaptés à certains environnements, et comme ça, vous pouvez les coloniser différents environnements. Hors équilibre, c'est-à-dire que le système va jamais revenir en arrière. Vous avez une bactérie, elle va se séparer, et ben les deux bactéries qui proviennent de cette évolution-là vont jamais pouvoir revenir à la molécule initiale. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de réactions chimiques. La vie est un système chimique qui a un processus particulier. Et toute la question, justement, c'est de savoir comment ce processus particulier est apparu, ce qu'on appelle est émergé. Comment ce processus est émergé? Est-ce que ça a été uniquement sur Terre? Et est-ce que ça peut avoir lieu dans d'autres environnements? Donc c'est toute la question, elle est là. Et donc je dirais qu'en fait on reprend la même définition qu'a donnée Puri, mais avec des termes de chimiste. Et finalement, le système vivant, c'est qu'une question de point de vue pour moi, parce que vous disiez des personnes personnifiées un petit peu. Bah pour moi, par exemple, une molécule, je la personnifie. D'accord, elle va rencontrer une autre molécule pour faire une évolution chimique. Et en fait, tout simplement, une fois que vous avez l'émergence de ces systèmes-là, et bien vous avez les systèmes chimiques vont évoluer sous contrainte de leur environnement pour aller jusqu'à Lucas. Et toute la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre ces deux éléments-là? Tout simplement parce qu'on n'a pas d'observable sur ça. Hein, on a perdu...
Pas d'observable, ça veut dire que les traces de cette partie-là de l'histoire de notre planète, notamment, n'existent plus.
Tout à fait. Donc les premiers, c'est les stromatolites, hein, comme tu disais tout à l'heure.
Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire, Puri, ce qu'est un stromatolite dont vous parliez tout à l'heure?
Alors, les stromatolites sont des roches microbiennes, à l'occurrence, qui se forment toujours aujourd'hui, hein, et donc c'est formé par des communautés complexes qu'on appelle des tapis microbiens, des micro-organismes qui sont stratifiés, où il y a beaucoup d'espèces mélangées. Et dans certaines conditions chimiques, ces communautés favorisent la précipitation minérale. Donc, avantage, c'est que quand les micro-organismes ou les communautés complexes des micro-organismes favorisent la précipitation minérale, ça fait des roches et ça se garde mieux dans les registres fossiles. Et donc après, ces roches qui souvent sont laminées, c'est pour ça qu'on les appelle stromatolites, peuvent témoigner d'une vie passée.
C'est en gros une partie minérale qui reste de matière organique qui a existé il y a bien longtemps. Ça, c'est justement ce qu'on ne retrouve pas, Grégoire Danger, il y a très longtemps dans notre planète. Donc, comment est-ce que vous pouvez espérer, d'une certaine manière, réussir à comprendre l'origine de la vie en partant de la chimie prébiotique, comme on pourrait l'appeler, avant la vie?
Alors là, j'ai donné mon opinion en tant que scientifique, c'est-à-dire que je pense que la vie terrestre, on n'arrivera pas à comprendre exactement à l'origine. Justement parce que on a eu cette transition au niveau chimique et on a perdu toute l'histoire qui est entre la transition et l'apparition des premières traces de vie qu'on peut voir sur Terre. Et en fait, toute l'évolution de la vie, on voit, est fortement contrainte par les fluctuations de l'environnement terrestre. Eh bien, il faut bien comprendre qu'au niveau biologique, ça s'est passé comme ça. Au niveau chimique, c'est la même chose. Sauf que c'est des choses qu'on ne peut pas voir. C'est des environnements extrêmement petits. Et la moindre fluctuation d'environnement va aussi nous faire bifurquer la chimie dans certains sens. Donc nous, l'approche qu'on développe, elle est pas forcément de se dire, voilà, comment est-ce que les acides aminés, on s'intéresse à ces questions-là, hein, mais on essaye de penser différemment en se disant, bon ben voilà, je laisse un peu les molécules du vivant, par contre, je vais en garder le processus. Ce qu'on disait, c'est les systèmes qui vont être capables de se reproduire et puis qui reviendront jamais en arrière. Et on essaye de comprendre, eh bien, quand on a cette matière organique qu'on voit dans les météorites, là, ou les astéroïdes, ce qu'on discutait tout à l'heure, il y a des milliers, des millions de molécules différentes. Comment est-ce que les environnements, différents environnements vont pouvoir sélectionner différents types de molécules? Et on essaye de comprendre, eh bien, s'il y a qu'un seul environnement, peut-être qu'on ne trouvera jamais, c'était celui de la Terre primitive, ou au contraire, vous avez plusieurs dizaines de conditions possibles qui vont choisir des molécules différentes, mais aller au même type de processus. Et si on arrive à répondre à cette question-là, on pourra dire, oui, il y a beaucoup d'environnements possibles, donc la vie est probablement peut-être présente sur d'autres astres que la Terre, ou au contraire, on n'y arrive pas. Alors, ça ne voudra pas dire qu'il n'y a pas d'autres vies, mais en tout cas, ça va être compliqué. Donc, c'est un petit peu l'approche qu'on essaye de mettre en place.
Ça me rappelle l'expérience de Miller dont vous parliez tout à l'heure, où dans une bulle ont été mis des éléments, des gaz, etc., qu'on a soumis à des éclairs et ce genre de choses qui pouvaient avoir lieu à l'origine de la Terre. Et l'expérience de Miller a été, non pas rejetée, mais a été reprise ensuite parce qu'on a imaginé qu'en réalité, l'atmosphère primitive de la Terre n'était pas celle que Miller avait en tête. Ça correspond un petit peu à ces questionnements de savoir quel était l'environnement initial et qu'il est extrêmement difficile d'y arriver.
Oui, c'est un très bon exemple parce que donc Uri Miller mettait ce qu'on appelle donc du méthane, c'est ce qu'on appelle en chimie un environnement plutôt réduit. Et ça, c'est très propice à faire de la chimie à base de carbone. Ça, on fait des millions de molécules avec ça. Et les modèles montrent qu'en fait, on avait beaucoup plus d'oxygène lié au carbone et ça bloque un petit peu la chimie. Et en effet, lorsqu'on fait l'expérience de Miller dans ces conditions plus réalistes de la Terre primitive, on se rend compte bien qu'on diminue la quantité de matière organique formée. Donc ça marche moins bien. Donc ça vous montre que bien, suivant les conditions, les molécules que vous allez avoir dans votre atmosphère, eh bien vous pouvez former beaucoup de chimie ou peu de chimie. Et là, c'est un très bon exemple. Entre les deux, vous pouvez avoir un gradient et qui fait que bien, vous allez avoir des chimies plus ou moins évoluées qui vont se mettre en place et comprendre comment cet environnement oriente la sélection de ces molécules est, je pense, potentiellement une des solutions pour comprendre si la vie peut se développer dans d'autres environnements. Encore une fois, je pense que la vie terrestre, ça va être compliqué.
Purie, est-ce que vous êtes plus optimiste peut-être ? Ou je ne sais pas si c'est une question d'optimisme, pour remonter jusqu'à l'origine de la vie en partant du vivant pour le coup ?
On peut essayer de reconstruire, je suis tout à fait d'accord avec Grégoire, on peut essayer de reconstruire une histoire plausible de la transition abiotique-biotique sur Terre. Par contre, si on n'a pas une machine à voyager dans le temps, on ne pourra pas vérifier parce qu'effectivement, les traces sont disparues. On peut le faire jusqu'à Lucas, mais avant, c'est difficile. Mais je suis d'accord qu'il y a ces approches-là. Pour moi, optimiste ou pessimiste, je suis plutôt sceptique. On a un seul exemple de vie sur Terre, c'est donc, et c'est avec ça qu'on doit faire. La grande question est de savoir si la vie est un processus plutôt déterministe, c'est-à-dire si on part des mêmes conditions initiales, les mêmes molécules, etc., on aboutit toujours à la même chose, ou si le côté chance, hasard ou nécessité, a été important pour l'origine de la vie. Et quand on se penche dans la biologie moléculaire des cellules qui existent sur Terre, c'est vraiment tellement imbriqué, alambiqué, qu'on voit que le facteur chance peut avoir été important. Voilà. Donc, je ne sais pas. On est admiratif devant ces processus-là. Est-ce que ça s'est fait spontanément beaucoup de fois? Ben, je ne sais pas. Il faudrait attendre de voir s'il y a la vie dans une autre planète ou astre pour le dire.
Pour pouvoir notamment comparer de la façon dont elle est faite et nous-mêmes.
Vous parlez de chance, c'est fascinant. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir un événement cataclysmique qui ôte toute la vie de la Terre? Ou est-ce que ça s'est passé avant Lucas? Ou est-ce que...
Il y a eu des événements cataclysmiques, style bon, la formation de la Lune, mais probablement c'est passé avant que la vie ne s'est formée. Il y a eu des bombardements d'astéroïdes, mais probablement ça n'a pas effacé
toute vie.
Si la vie existait déjà, après peut-être des cessés de vie. On peut imaginer que sur la planète, il y a eu plusieurs cessés en parallèle, et il y en a un qui a crêté les processus en place. Peut-être il y a eu d'autres départs, mais ils ont été anéantis ou séquestrés par ce départ qui a pris les dessus par la suite. La chance a eu lieu après dans l'évolution, donc on a toujours ces processus déterministes et chances qui interviennent sans cesse.
Pour rebondir sur le cataclysme de Marie-Darieussecq, parce que entre la naissance de notre planète il y a 4,567 milliards d'années à peu près et les stromatolites dont vous parliez, où on est absolument certain que la vie est là, il y a eu plusieurs cataclysmes. Il y a eu la création de la Lune où la Terre s'est pris en pleine tête une autre planète, Theia, qui a dû éradiquer absolument tout. Mais quand on regarde ça, on voit que les délais finalement sont pas si longs pour que la vie réapparaisse sur Terre. Est-ce que ça, Grégoire Danger, ça ne donne pas une idée que finalement la vie n'est pas si difficile à faire apparaître ?
Je pense qu'il y a une différence entre le fait que ça émerge et le fait que ça se développe. A priori, une fois que la vie est apparue, elle va se développer, coloniser de nombreux environnements. Je pense qu'il faut qu'elle colonise très rapidement différents environnements. Autrement, elle peut s'autodétruire puisqu'elle va consommer dans son environnement initial tous les nutriments. Puis après, il n'y a plus de quoi vivre. La question, c'est de la transition. C'est toujours pareil. Et ça, on n'a pas de réponse. Je ne sais pas du tout répondre. Sur Terre, a priori, oui, parce qu'il faut à peu près entre 4,3 et 4,4 milliards d'années aux premières traces de vie. Donc, il irait à 4,1, 4 milliards d'années. Donc, c'est dans l'échelle géologique et même de l'évolution de la vie sur Terre, c'est très court, hein, c'est de 2 à 300 millions d'années. Donc, une fois que c'est apparu, ça va très vite. Maintenant, la question, c'est quelle est la probabilité de cette apparition? Et ça, on ne sait pas.
Mais d'ailleurs, on va s'excuser de ne pas savoir. Et comme on s'excuse, nous allons écouter des excuses de pommes.
C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi. Et quand je pense à toi, j'ai le cœur au mauvais endroit. Moi je fais pas confiance au premier venu. Je t'ai donné ta chance, mais t'as disparu.
Toujours en compagnie de mes trois invités, la biologiste Puri Lopez-Garcia, le chimiste Grégoire Danger, l'écrivaine Marie Dariussec et le public du studio 181 de la Maison de la Radio qui se prépare à poser ses questions.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Alors nous avons une question de Vincent.
Bonjour, peut-on penser la vie dans un autre milieu que l'eau?
Grégoire Danger, c'est une question pour vous ça.
Alors ça, c'est une grande question. On pense que non, tout simplement parce que l'eau a des propriétés particulières, c'est-à-dire qu'elle a une gamme dans laquelle elle est liquide, entre on va dire un peu plus de 0 degré jusqu'à 100 degrés. Et c'est un des seuls solvants en fait qui permet d'avoir cette gamme de liquide. Pourquoi c'est important d'être liquide? Tout simplement parce que lorsque vous voulez faire de la réactivité chimique, il faut que les molécules bougent et se rencontrent. Et donc, en fait, cette l'eau va nous permettre d'avoir dans de nombreux environnements cette possibilité. Et c'est dans cet environnement liquide que la chimie du carbone va pouvoir se faire assez facilement. Alors après, il y a des expériences, et notamment toutes les personnes qui travaillent sur les glaces dans les environnements polaires, qui montrent que dans les environnements glacés, vous avez en fait des interfaces où vous êtes à la limite du liquide et en fait, vous allez accélérer les réactions chimiques. Donc, il peut aussi y avoir des environnements dans lesquels on va être plus vers la phase glace, mais il faut quand même une interface un petit peu qui va vers le liquide pour pouvoir faire de la chimie. Mais donc voilà, mais l'eau, oui, semble assez assez importante. Et en plus, juste pour terminer, c'est que l'eau, si vous regardez en fait, par exemple, les molécules les plus abondantes que vous allez avoir dans l'espace, c'est l'eau. Donc tout a un corollaire. Le carbone, c'est pareil. Les aimants volatiles, ce qu'on appelle le carbone, l'oxygène, l'azote, qui sont disponibles. Eh bien, ce sont le carbone, l'oxygène, l'azote qui vont constituer les molécules organiques. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont un peu cohérentes quand même dans tout ça.
Il y a de l'eau, il y a toutes les molécules organiques, ouais. Il ne manque plus que la petite baguette magique.
Mais ce n'est pas de la magie, attention.
Pardon. Nous avons une question de Daniel.
Oui, merci. On en a déjà parlé là, mais sur quel endroit du système solaire avons-nous le plus de chances de trouver le cousin éloigné, bien sûr, de Lucas ?
Je peux l'apprendre. Il y a plusieurs endroits qui sont proposés. Le plus probable, ça serait Mars, à l'époque où la vie s'est formée. Parce que Mars, à cette époque-là, au début de l'histoire de la Terre, était une planète un peu différente. Il y avait de l'eau liquide certainement à la surface et probablement des conditions relativement similaires à celles de la Terre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est une des cibles possibles pour trouver non pas la vie actuelle, on pense que sur Mars, il n'y a pas vraiment la vie, mais des traces potentielles d'une vie passée qui se serait formée à une époque.
Et donc, il y aurait eu un cataclysme qui l'aurait arrêté.
Non, simplement, l'histoire de Mars, c'est une planète plus petite, elle a perdu son atmosphère et elle n'a pas un couvercle magnétique qui protège la planète des radiations solaires et n'a pas d'eau à la surface, etc. Donc simplement, les conditions ne sont pas possibles pour la vie à la surface de la planète Mars. Ce ne serait pas complètement impossible de penser que si la vie est apparue sur Mars à un moment donné, elle puisse être cantonnée dans certains refuges à l'intérieur de la planète. Mais c'est où il y a l'eau liquide, par exemple. Mais ça, c'est difficile à trouver parce que les roves qui sont sur place peuvent crescer un petit peu à la surface, mais pas aller assez en profondeur pour voir s'il y a une vie, comme elle existe sur notre planète, en profondeur. C'est ce qu'on appelle la biosphère souterraine, en profondeur, plusieurs kilomètres sous la surface. On peut avoir une vie microbienne, bien sûr.
Grégoire, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, juste pour ajouter par rapport à Mars, il y a aussi les satellites glacés. Donc Europe pour Jupiter et puis Encelade pour Saturne. En fait, ils sont entourés d'une calotte glaciaire, enfin d'une glace très épaisse, plusieurs centaines de kilomètres. Et dessous, il y aura un océan. Et puis, vous auriez des sources géothermales au fond des océans qui permettraient de fournir l'énergie. Et donc là, vous avez par exemple la mission Europa Clipper qui va justement sur Europe pour essayer, alors pas de détecter la vie, hein, mais surtout de comprendre la chimie de cet environnement-là, de surface.
La recherche d'eau liquide, en fait, est la question pour ces endroits dans le système solaire où éventuellement il y a la vie. Mais il y en a beaucoup des endroits où il y a de l'eau liquide. Il y a pas mal de lunes, pas mal de petits astres un petit peu partout qui en contiennent. Nous avons une dernière question de Lucie.
Bonjour à tous. Alors moi, je me demandais si, selon vous, on est plus proche de trouver la recette de la vie sur Terre ou une trace de vie sur une autre planète, et donc en fait des extraterrestres.
Tous en même temps.
Malheureusement, on n'a pas la réponse, mais les deux choses se mènent en parallèle. Donc, d'une part, il y a beaucoup d'équipes, dont celle de Grégoire, qui essayent de reproduire des conditions dans un tube à essai pour faciliter éventuellement l'apparition des formes qu'on pourrait appeler vivantes. Et d'autre part, il y a des missions spatiales qui vont aller chercher des restes, des traces, des biosignatures à la surface de Mars ou éventuellement plus loin, même sur des exoplanètes, mais avec un autre type de signature qui serait spectrale sur des... Si, par exemple, la vie avait affecté et transformé l'atmosphère de certaines exoplanètes comme elle l'a fait sur Terre. Parce que quand la vie est apparue sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère et l'oxygène dans l'atmosphère terrestre est un sous-produit de la vie.
Grégoire ?
Oui, pour compléter, je pense que en fait la première question c'est de se poser c'est qu'est-ce que l'on va chercher ? Est-ce qu'on cherche vraiment les molécules du vivant terrestre dans d'autres environnements ? En sachant comme on l'a discuté tout à l'heure, la probabilité que dans un autre environnement, on ait la même chose que sur Terre est assez faible. Et le problème c'est que les systèmes vivants, c'est dynamique. D'accord ? Donc il faut regarder dans le temps. Notamment les exoplanètes, si vous regardez un instant donné, vous n'êtes pas capable de dire si l'impact de la présence d'oxygène ou autre chose est lié à un phénomène biologique ou non. Parce qu'il faut regarder sur plusieurs dizaines de milliers d'années, voire millions d'années, l'évolution de l'atmosphère et essayer de déterminer si c'est corrélé à la géochimie, par exemple, ou à la biologie. Donc voilà, donc c'est pas évident.
Je comprends, c'est pas simple tout ça. Et je vais vous faire, on arrive à ce moment de l'émission où je vais vous faire écouter un petit son à tous les trois que vous allez essayer de deviner et qui est en rapport avec ce que nous avons raconté aujourd'hui et aussi avec une question que nous nous sommes toutes et tous posées à un moment dans notre vie. Alors on va écouter le son, n'hésitez pas à parler par-dessus pour nous dire ce que vous en pensez. Idée de ce que ça pourrait être. Je suis sûr qu'il y a un son que vous reconnaissez et un autre peut-être moins.
On dirait des gouttes.
Ou ça peut être des animaux jouant au claquet.
C'est pas mal. Ça vous dit quelque chose,
c'est le son de quelque chose dans l'espace, on a envoyé une sonde et c'est un vent solaire ou je ne sais pas, quelque chose.
J'adore entendre ce qui vous passe par l'esprit, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. C'est quelque chose qui a à voir, je vous le disais, avec une question qu'on s'est tous et toutes posée, à savoir qui est venu en premier de l'œuf et de la poule.
L'œuf ou la poule.
Du coup, on était en train d'entendre un petit poussin qui sortait de sa coquille. Et je vous propose d'écouter Damien Germain, qui est paléontologue et responsable de collection fossile au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui va nous éclairer sur ce problème épineux.
Donc on vient d'entendre le son d'un œuf qui éclot et ça fait écho à plein de choses. Hein. C'est la vie qui commence, là c'est la vie d'un individu, mais on peut aussi faire un parallèle avec les origines de la vie. On peut aussi faire le parallèle avec ce débat éternel de ce qui apparaît en premier entre l'œuf et la poule. On peut dire que les poules sont finalement une espèce très récente, hein, qui n'a qu'une dizaine de milliers d'années. Et avant l'apparition des poules, beaucoup d'autres oiseaux ont pondu des œufs. Les premiers oiseaux, ils ont à peu près 140 millions d'années. Donc c'est bien avant l'apparition de la poule. Et avant les oiseaux, on a aussi les dinosaures qui pondaient des œufs. Et les dinosaures apparaissent vers environ 220 millions d'années. Et tous ces œufs-là, finalement, ce sont des œufs à coquilles minéralisées, des coquilles dures. On imagine un œuf qu'on casse pour faire la cuisine, un œuf dur. C'est un œuf très minéralisé, mais avant ça, il y a aussi d'autres espèces qui pondent des œufs à coquilles, mais plus molles. On voit des fois des images de petites tortues, de crocodiles aussi, dont la coquille, elle est étanche, mais beaucoup plus molle. Donc ça ne devait pas faire le même bruit quand ils sortaient. Les animaux qu'on appelle des amniotes apparaissent il y a environ 300 millions d'années, mais encore avant, on avait aussi des amphibiens qui apparaissent quelques millions d'années avant. Les 350 millions d'années, eux, ont des coquilles, mais sans paroi étanche. On peut s'imaginer par exemple des œufs de grenouille qui sont une masse gélatineuse et là il n'y a sans doute pas de bruit quand l'animal en sort. Mais encore avant, beaucoup d'autres animaux pondent des œufs. On peut penser à des invertébrés comme des coquilles Saint-Jacques, des langoustines. On voit parfois c'est des petites boules oranges sur les queues des langoustines. Donc ce sont des œufs aussi et tous ces invertébrés, ces grands groupes se diversifient. Ils apparaissent vers 500 millions d'années, donc c'est vraiment très ancien. Et encore avant, on peut aussi considérer que d'autres animaux pondaient des œufs, hein, les ancêtres des méduses, des éponges et tout ça, ça apparaît encore avant. Vers les 700 millions d'années, voire avant. Donc finalement, l'œuf est vraiment presque la forme de vie originale, en tout cas chez les animaux.
Marie Dariussec, est-ce que vous avez l'impression qu'une histoire, une narration est en train de s'écrire quand même ?
Non, mais je suis désolée, mais on reste dans les recettes de cuisine. Hein. Les œufs, voilà. Le pauvre poussin. Finalement, c'était le plus simple. On a tous pensé à un chant d'oiseau, mais on a fait des grandes circonvolutions.
Absolument. Ouais. C'est un peu comme quand je donne des conférences de physique quantique ou de relativité générale et que je demande aux gens combien fait 1 plus 1 et puis personne ne sait. Tout le monde a complètement oublié. Et nous arrivons déjà à la fin de cette émission, c'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Alors si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup de livres, notamment La vie à portée de main que j'ai écrit pour vous. Merci beaucoup à Damien Germain pour votre éclairage sur l'épineux problème de l'œuf et de la poule. Merci à vous Marie Dariussec, votre dernier livre « Fabriquer une femme » était édité aux éditions POL. Merci à vous Puri Lopez-Garcia, votre livre « Le soleil, la vie, la Terre, la quête des origines » est publié aux éditions Belin. Merci beaucoup Grégoire Danger. Nous espérons qu'un jour vous trouverez quand même l'origine de la vie sur Terre malgré tous les possibles qui nous entourent. Merci au public du studio 181 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Céline Guéribi, à la vidéo Théo de Lobadère et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une émission qui vous apprendra à vivre dans l'espace.